Merci à tous ceux qui se joignent à nous et on a toujours une bonne pensée pour ces milliers de Québécois qui sont en panne d'électricité. Vous avez entendu dans notre bulletin de nouvelles, ça s'améliore légèrement d'heure en heure. Il y a quelques améliorations. Hydro-Québec travaille fort là-dessus apparemment. Et en tous les cas, ça prend beaucoup de patience. Et puis, si vous voulez être bien accompagné, ben vous êtes au bon endroit. Merci d'être là. Ma prochaine invitée a vécu une année assez difficile. En fait, il y a un an, puis c'est presque jour pour jour, parce qu'on est le 10 avril, puis c'est là. Ça se jouait là, il y a un an. Elle passait au travers d'une épreuve assez importante, une intervention chirurgicale contre un cancer du sein. En fait, je dis un, mais dans son récit, c'est plus trois. Elle va nous l'expliquer. Vous la connaissez, vous l'avez vue et vous l'avez peut-être suivie dans ses carnets sur Urbania. Elle vient de publier ces carnets-là, justement, dans un livre. Annick Lemay est avec moi. Merci d'être là, Annick.
Merci à toi, Isabelle.
Grosse année. Et tu commences avec ça dans ton livre. Tu dis, ton livre qui s'appelle « Le gouffre lumineux », tu dis « Si c'est vrai que la vie t'apporte ce que tu peux prendre », là, je la cite, là, « faut croire que je suis capable d'en prendre en crise ». Je trouvais que ça donnait le ton à tout ce que tu as vécu aussi, parce que il y a de la colère aussi, à un moment donné, quand tu apprends
ça. Ah, il y a beaucoup de colère. Oui, il y a du désarroi, il y a de la colère, il y a de la défaite, il y a de la peur, tout ce qu'on peut trouver comme qualificatif négatif.
Quand tu regardes ça aujourd'hui, là?
Ben moi, ça me fascine. Je suis fascinée depuis au moins une semaine que j'en reviens pas. Parce qu'à la base, le livre, Philippe m'a proposé d'en faire un livre, en fait, de prendre les
Philippe Lamar d'Urbania.
Oui, Philippe Lamar. Je trouvais ça important parce que je pensais à mon père qui n'a pas Internet, qu'il fallait que j'y imprime les chroniques pour qu'il puisse les lire. Fait que je me suis dit, bon, ça peut peut-être aider d'autres mondes. Parce que j'ai su après ça que ça avait aidé bien du monde. Mais quand Philippe me l'a proposé, j'ai fait, OK, mais si on sort le livre, il faut que ça sorte le 10 avril. Parce que moi, le 10 avril, il y a un an pile, j'étais à l'hôpital. J'apprenais que j'avais un troisième cancer du sein dans le droit qui était complètement différent des deux autres dans le gauche. Et cette même journée-là, dans quelques heures, cet après-midi, je passais un énième scan parce qu'on pensait que j'avais des métastases dans ma colonne vertébrale. Alors là, j'ai pensé mourir, vraiment. C'était la chimio palliative, plus d'opérations, des simples. Ma vie a vraiment viré bout pour bout le 10 avril, il y a un an pile, puis j'en reviens pas d'être là aujourd'hui, face à toi. Un livre dans mes mains, j'ai des frissons.
Puis une année qui a été...
Et comme, en fait, ma vie a été mise entre parenthèses, puis cette année-là est comme dans un brouillard, je te dirais. Le temps est arrêté quand t'es malade, et puis avec les traitements, t'es vraiment sonné. Fait que c'est comme une espèce de... Quand je me relisais pour éditer le livre, je m'étais jamais relue, puis j'ai comme revécu un peu mon année. Ça a été...
Éprouvant.
Oui, ça n'a pas été facile, en fait.
Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi les... Moi, je retiens beaucoup de... Ça s'appelle « Le gouffre est lumineux », puis je trouve que le titre est magnifique parce que, tu vois, c'est sûr que moi, en relisant ça, je me suis remis dans une autre histoire plus personnelle que j'ai vécue avec Joanne Fontaine. Et pendant 8 ans, Joanne a eu 8 années où elle a beaucoup cherché la lumière. Et comme toi, il y avait ce... Je ne sais pas si son parcours t'a inspiré.
Oui, ben je ne l'ai pas suivi tout du long.
Mais Joanne faisait ça. Elle avait ce besoin de le dire parce qu'elle se disait, je ne suis pas capable de vivre ça toute seule. Il faut que je le dise. Puis peut-être ça peut aider du monde. Ça a été ça, sa réflexion, ce qui est aussi un peu la tienne. Mais il y a des bouts. Puis elle parlait souvent de la lumière. Et en même temps, du gouffre aussi. C'est comme des mots-clés pour les gens qui vivent ce que vous avez vécu. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont le cancer en ce moment. Puis cette image-là du gouffre lumineux vers la fin, sans doute. Ça doit leur parler. Je trouve que c'est une belle image que tu as trouvée.
Ben en fait, c'est le titre de la première chronique que j'ai remis sur le livre. Mais c'était vraiment ça. Le gouffre, en fait, c'est la terre qui s'ouvre sous tes pieds. Puis moi, je tombais. J'en revenais plus de tomber. Puis c'est un peu ça, là, si je suis capable d'en prendre. Là, mon gouffre, moi, il est profond. Je suis allée loin. Mais oui, la lumière, en fait, elle est partout. C'est ça qui est fascinant. Puis c'est vraiment en entrant à l'hôpital, dans l'oncologie, que j'ai vu, que j'ai palpé cette lumière-là. Puis une de mes amies, une de mes fées, Julie Le Breton, elle m'a dit, je comprends maintenant quand tu parles de la lumière, parce qu'elle était venue avec moi en chimio une fois. Puis on a rencontré des gens.
Ouais.
Tu sais, quand tu es en survie, quand tu es en train d'avoir des traitements qui te détruisent
quand
complètement.
Quand finalement, parce que
oui,
c'est long.
C'est ça. quand tu te fais éjecter pendant 4h30 du ouais. poison, entre guillemets.
Une fois que
tu
as fait tous tes sudoku, puis que
tu m'as parlé.
Oui, c'est ça.
Tu t'ouvres aux autres, tu sais. Puis les autres sont dans la même place que toi. On est toutes là parce qu'on a envie de vivre. Puis ça, c'est bien, bien lumineux.
Il y a tellement de monde.
Il y a tellement de monde.
Moi, là, dernièrement, je t'avoue, là, trop de monde, trop de monde. Il y a comme l'année dernière, j'ai perdu trois amis proches avec le cancer. Je veux dire, t'en as côtoyé plein. Oui. Tu racontes toutes ces rencontres oui. que tu fais aussi, sans parler des espèces de dommages collatéraux. Tu parles de ça m'a touchée. Parce qu'on sait que les gens ne le savent peut-être pas assez, mais 80% des gens qui traversent une maladie, que ce soit le cancer ou d'autres choses, ils se ramassent tout seuls.
Oui.
Puis là, tu parles d'une dame qui s'est fait dire 5 jours après avoir reçu son diagnostic de cancer. Son mari, lui, il n'était pas prêt à vivre ça. Il ne tentait pas de vivre ça. Il voulait vivre d'autres choses.
Ouais.
Il voulait voyager. C'est quelque chose, ça.
Oui, il y a du gros narcissisme, là, de l'égocentrisme à puissance 1000, je te dirais. En fait, l'annonce de la maladie peut avoir un écho différent pour toute personne, en fait. Moi, je sais que mes proches, en fait, ils ont eu très peur. Ils ont pleuré beaucoup plus que moi, en fait. Cette onde de choc-là, cette espèce de tremblement qui vient du profond de la terre, là, ça shake tellement le monde alentour de toi. Toi, t'es juste tétanisé, tu sais. Puis moi, avec ma tête de cochon, je vais prendre le taureau par les cornes puis je vais y aller, tu sais. Mais j'ai senti l'effet de choc, genre jusqu'à l'automne, où là, je percevais les parcelles de peur et de désespoir, quelque part. Mes parents perdent un enfant, ça se peut pas, tu sais. Mais les gens qui sont tout seuls, moi, j'ai comme un... J'aimerais ça que les gens arrêtent de penser que la maladie, c'est une honte. J'aimerais ça que les gens puissent demander de l'aide en étant vulnérables, en montrant ça, en disant « je peux pas être toute seule, je suis pas capable d'être toute seule ». Ça change tout, être entouré, être porté, ça fait vraiment du bien si tu es capable d'aller là.
C'est ça. Puis si tu as des gens autour de toi, t'es une personne sur deux est seule à Montréal, vit seule, n'a personne autour vraiment. Là. C'est fascinant de voir ça d'ailleurs.
Ouais,
c'est fascinant parce que tu dis,
voyons
donc comment ça se fait. Même des fois quand tu veux demander, ce qui est déjà beaucoup, de se rendre là.
Tu es capable de demander, oui.
Après, tu demandes à qui?
Oui. Hein?
Même demander au système de santé. On s'est rendu qu'on en demande trop.
Hey, je viens d'avoir une pensée. Là.
Vas-y.
Que ça n'existe pas. Là. Mais il doit y avoir des centres, en fait. Il doit y avoir des associations pour amener les gens en traitement. Je ne sais pas. Y a-tu ça, des bénévoles qui amènent les gens?
Il y en a, sans doute. Faut...
Je ne sais pas, mais il faudrait ouvrir ça, justement, aux gens qui ont un diagnostic de maladie grave pour être accompagné.
Ouais.
Peut-être qu'à partir de là, il va se créer vraiment une belle amitié.
Ouais.
Mais,
c'est pour
naïve,
ça qu'on
là,
parle des aidants naturels.
Oui.
La force vive que représentent les aidants naturels au Québec, là, qui sont en train de se tuer à la tâche, c'est ça aussi qu'ils font. Là.
Ouais.
Toi, tu parlais de tes filles. On va y venir parce que c'est rare d'avoir... Écoute, 24 filles, 24 amis, finalement.
Ouais.
T'en as beaucoup. On vient de dire qu'il y en a qui s'en cherchent un. Oui,
oui.
T'en as 24.
Je peux en passer, moi. Je peux en louer.
T'es vraiment chanceuse.
Je suis vraiment chanceuse.
Je me disais, tu dois être une magnifique amie.
Ben, j'imagine que oui.
Parce que c'est ça, t'attires les gens.
Ouais.
En même temps, t'as fait du ménage. Puis tu le dis assez tôt dans ton livre. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'avais lu que tu parlais de ça, du ménage que t'avais fait autour de toi.
Mm-hmm.
Parce que quand on est malade, il n'y a pas le temps de niaiser. Là, tu vas à l'essentiel. Donc, il y a des gens que tu veux pas traîner avec toi parce qu'ils...
Ben, c'est comme... En fait, on parlait de la réaction des gens, comme du gars qui a quitté sa blonde 5 jours après.
T'as vécu, toi, des réactions de proches
comme
ça, étonnantes?
Oui, des réactions très égocentriques.
Par exemple?
Je peux pas nommer, mais en fait, qui ramenaient ce qui m'arrivait à eux-mêmes. Puis ça m'a scié à terre.
Mais sans me dire qui, puis trop proche, mais donne-moi des exemples de réactions.
Ben, mettons, je sais pas, moi, je viens de savoir que j'ai 3 cancers, que là, j'ai eu peur de mourir dans l'après-midi, puis la personne me parle de... Ouais, ben finalement je suis contente. Il y a une intolérance de moins dans ma vie. J'ai été voir un hypnologue, là, quelqu'un qui fait de l'hypnose. Puis, je suis plus intolérant, mettons, aux pommes.
Ah, tu veux dire que les gens écoutaient peu ce que tu disais toi, puis amenaient leur.
C'est de la maladresse.
Ouais, c'est ça.
Mais quand c'est à répétition, À un moment donné, je tire la plug, moi. Je fais, mais voyons, t'es où? Mm. Aucune question sur comment moi je me sens, pas nécessairement que j'ai envie de t'en parler, mais au moins un peu de délicatesse.
Ouais.
C'est des gens qui étaient avec moi depuis des années, puis je voyais pas ça, en fait. Tu comprends? Il y a comme une espèce de clarté dans l'entourage. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait. J'ai comme vu des aspects de la personnalité des gens que je voyais pas du tout avant. Peut-être que je cherchais trop à être aimé, à les aimer, ou je sais pas, mais ça a mis un stop.
Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est que les gens, mais c'est peut-être, tu dis maladresse, c'est peut-être aussi par peur, ils veulent pas être confrontés.
Je comprends tout ça.
À des gens qui.
Mais je pouvais pas rester là.
Ben non, c'est ça. Est-ce que comment tu l'as dit? Tu leur as dit ou tu as juste fait, OK, toi?
Oui, oui, je les ai.
Tu l'as expliqué quand même?
Ben oui, je les ai confrontés. Puis
la réaction, c'est de dire quoi?
Je les ai pas revus et ils seront jamais
sur le coup,
expliqués.
Sur le coup, ce qu'ils disent, oh mon Dieu, excuse-nous, c'est pas ça.
Non.
Ils se défendaient pas, non?
Non, non. C'est drôle. Ouais. Ouais. Ben, ça me donnait raison, en fait.
Tout à fait. Ouais. Mais on s'entend que.
Puis je m'ennuie pas de ces gens-là.
Wow.
Ça donne.
Ça veut dire qu'on traîne parfois des boulets qui sont pas forcément des bonnes
personnes.
Écoute,
moi, je veux pas être un gourou de la spiritualité ou je sais pas quoi, mais oui, je
mais
pense que
la
qu'on
maladie
peut
amène là. Pas d'accord?
Ben, en fait, ça amène une clarté sur la vérité, là. Toutes les vérités possibles, là, autant dans tes amitiés, dans tes relations de travail, dans toute ta vie, en fait. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Je disais ça à Guilla en janvier.
À tout
mon
le
sac
parle.
À bullshit, il est vide. Je peux plus en rentrer. Je peux plus. C'est fini.
Ouais.
L'hypocrisie, ça marche plus. Ça. Moi, je veux juste les vraies affaires. Puis, au quitte que ça fasse mal, souvent, la vérité fait mal. Mais j'aime bien mieux que ça fasse mal là que traîner ça, puis mais non, je peux plus.
Ça t'a fait mal sur le coup, ces amitiés que tu as dû laisser aller en même temps que tu vivais quelque chose d'intense?
Des peines d'amour, des peines d'amitié. Oui, vraiment, c'était des gens qui étaient très, très importants. Je l'ai dit dans le livre, c'est à cœur défendant souvent, parce que tu veux pas aller là, mais c'est plus fort que toi. Moi, c'était plus fort que moi. Je les ai repoussés... en fait, de tout mon être.
En même temps, tu as eu ces 24 filles.
Oui.
Dont beaucoup de personnages connus. Il y a une magnifique photo où, mm-hmm. elles font...
C'est
elles
beau,
sont,
hein?
Oui, c'est magnifique, ces filles-là, tu vois.
Oui.
Tu dis mes filles. Joanne disait mes déesses.
Ah, c'est vrai?
Oui, oui.
Ah, c'est ça.
Et en même temps, tu dis, ces filles-là ont toujours été là, à tour de rôle.
Oui, elles s'organisaient.
Ouais. Comment ça marchait, ça?
Ben, écoute,
comment c'est venu d'abord?
La première chronique, je l'ai envoyée à des amis. En fait, c'est comme si je leur écrivais à elles. Et puis, elles l'ont postée, partagée à d'autres amis qu'on avait en commun. Des amis plus ou moins proches de moi au quotidien, mais des amis que j'aimais beaucoup. Et puis, du moment où la nouvelle est tombée, ils se sont fait des doodles, puis ils se sont organisés avec la fée en chef, en fait, qui était déjà passée par là. Elle leur disait ce que j'allais avoir besoin dans les prochains jours, dépendant de l'opération, dépendant de la chimio. Fait qu'ils mettaient leur nom dans le doodle. Moi, je suis disponible là, là, là. Puis moi, je peux faire de la soupe là, de la lasagne là. Fait que j'ai rien... J'ai demandé de l'aide, mais ce que j'ai reçu en retour, c'est de l'amour au cube, là. J'en reviens pas, tu sais. J'étais vraiment très malade. Je fermais mes yeux, puis quand je les rouvrais, il y en avait une nouvelle qui était là, qui me massait un pied, tu sais. Non, j'ai eu une maladie épouvantable, mais j'ai été entourée divinement, donc je peux pas vraiment me plaindre, sincèrement.
Et les gens que tu côtoyais, est-ce qu'ils avaient... Il y avait-tu au moins une ou deux fées autour d'eux?
Dans mes amis malades?
Dans les gens que tu côtoyais pendant que tu attendais tes traitements, par exemple.
Ah,
quand t'allais à l'hôpital.
Tous les autres qui étaient dans les salles. Non, il y en avait qui étaient tout seuls. J'ai parlé avec une dame qui avait peut-être 60 ans, qui, elle, voulait pas être accompagnée du tout. Elle voulait vivre ça toute seule. Y a un beau monsieur que j'aimais beaucoup, qui était tout le temps pas mal couché quand il recevait sa chimio, mais qui lui, en fait, était tout seul. Son fils était, je pense, en Algérie, si je me trompe pas. Puis il était tout seul. Puis il revenait, il arrivait, puis il revenait en taxi chez eux. Puis il était vraiment tout seul. Mais ces gens-là, en fait, j'ai demandé à tout le monde... les gens de qui j'ai parlé dans le livre, ils m'ont tous donné leur approbation. Donc, j'ai pas écrit sur tout le monde que j'ai rencontré. Mais oui, il y en a beaucoup des tout seuls. Oui, il y en a beaucoup.
Annick, on va s'arrêter ici, mais on continue avec toi, bien sûr, après la pause. Si vous voulez dire un petit mot à Annick Lemay, si vous voulez aussi nous dire comment vous, si vous avez vécu ce qu'Annick décrit, c'est-à-dire le passage dans la maladie, la rémission. Est-ce qu'on peut dire que dans ton cas, as-tu entamé
je,
ça?
Je ne sais pas.
Comment
je sais
ça
pas,
marche, la rémission? On se pose la question avec l'équipe. Et on se dit, la rémission, c'est-tu après 5 ans qu'on peut dire ça?
Je ne sais pas. On dirait que je ne veux pas le savoir.
C'est ça.
Oui.
Mais on n'est pas obligé de le dire non plus.
J'ai aucune idée. Hey, en fait. Moi, je suis guérie. Pour
c'est
moi, je suis guérie.
Tu t'es guérie,
moi, je suis guérie. Puis ouais. Oui, il y a la récidive qui plane. Parce que quand tu as eu le cancer, ça se peut que ça revienne. Mm. Mais comme c'est un Québécois sur deux qui a le cancer, je l'ai déjà eu.
Ouais, donc...
Puis mon risque de récidive est de 30%. Fait que je suis bien plus protégée là, que je l'étais avant.
C'est une bonne façon de voir c'est les choses, Annick. Alors, si vous êtes parmi ceux qui avaient eu ou qui, en ce moment, ont à traverser la maladie, dites-moi comment vous arrivez à passer au travers. Puis si vous avez été aussi parmi les nombreuses personnes qui ont suivi Annick Lemay à travers ses témoignages au cours de la dernière année, bien, vous pouvez nous joindre au 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Puis si c'est juste pour lui donner de l'amour, alors prends encore.
Ah oui, il y a de la place tout le temps pour ça.
À tout de suite, tout le monde. Ah, je le savais que vous alliez appeler pour parler à Annick. Annick Lemay, comédienne, auteur affirmée, en fait, ça, oui. Ça nous a comme tous... j'allais dire, il y a plein de gens qui ont été surpris, mais t'écrivais, Annick, avant d'écrire ce livre.
Avant d'être malade, j'écrivais. Oui,
ça, oui. C'est fascinant, cette approche. On va parler à tout de suite, les lignes sont pleines. Je vais vous parler, là, je vais vous donner la ligne pour pouvoir parler à Annick et nous dire comment vous vivez ça, vous aussi, comment on passe à travers la maladie, comment vous y êtes arrivé. Mais je veux juste dire un petit mot sur le... Parce que je l'ai vécu avec Joanne, ou plutôt Joanne l'a vécu. T'sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment ça se fait que, avant le cancer... Je l'ai vu avec la vraie nature aussi quand je me suis ouverte un peu sur ma famille. Tu vois. Comment ça fait que les gens, ils ont une idée de toi, mais il faut qu'ils apprennent qu'il t'est arrivé une vacherie, une connerie de la vie, une maladie, un maudit cancer, pour que soudainement, il y ait de l'empathie?
Je ne sais pas. En fait, l'empathie, moi j'ai compris...
Ou de la meilleure compréhension?
Oui, en fait...
Je pensais pas que tu étais de même. Tu as l'air fine, finalement. Ouais. Tu es tombé un char de marde dessus. Donc là, je
change ma lunette sur toi.
C'est bizarre, non?
Oui, c'est bizarre. Mais tu sais, l'empathie, puis c'est pas donné à tout le monde, l'empathie, first. Il y en a pas beaucoup qui ont de la vraie et réelle empathie. C'est souvent de la compassion. La compassion, en fait, c'est centré sur tes émotions à toi versus ce que l'autre vit. L'empathie, c'est être capable de s'oublier soi et de se mettre vraiment à la place de l'autre. Donc, l'empathie est rare. La compassion, en fait, c'est à partir de tes émotions à toi. Donc, c'est sûr que, oh, mon Dieu, elle a le cancer. Je change ma lunette sur toi parce que j'ai peur, moi, d'avoir le cancer. Mm. Donc, ça, oui, ça peut te mettre un aura qui est bien différente de ce que tu étais avant.
Et toi, tu as reçu un peu des deux? Beaucoup de compassion?
Beaucoup d'empathie. À l'hôpital, surtout. Notre système de santé, quoi qu'on en dise, les gens qui y travaillent sont formidables.
Puis tu as une photo avec tes oncologues, médecins, chirurgiennes et infirmières. Puis en ce moment, on a un gros problème avec les temps supplémentaires des infirmières.
Tout
mais
à fait.
On en profite pour dire, hein, parce que...
On vous aime.
Oh mon Dieu.
Et vous êtes merveilleux, merveilleuses. Ouais.
Des femmes exceptionnelles. Sur lesquelles on fait peser toute la responsabilité d'un système mal organisé. Qui ne marche pas.
Ouais. T'es-tu mais d'accord c'est tout de leur faute, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Ça n'a pas de bon sens, là?
Non, ça n'a pas d'allure.
Imagine ce que c'était des policiers ou des chauffeurs d'autobus, là.
Ah oui. Mais oui, tu vois, là, on change la lunette de place, puis là, ça serait différent.
On n'aurait peut-être pas la même attitude.
Pas la même attitude.
Ouais. Là, on vient de se faire plein de nouveaux amis. En tout cas, tu as plein d'amis. On a plein de gens qui veulent intervenir. On va donner la parole à Odette tout de suite. Bonjour.
Bonjour, Isabelle. Bonjour, Annick.
Bonjour, Odette.
Allô. Ben, je vous envoie des belles pensées parce que moi, je suis survivante de 2 cancers.
Oh.
J'ai eu un cancer du sein agressif, invasif. Mon fils avait 1 an et demi.
Oh là là.
Il va avoir 22 ans. Là,
yay, Odette! Oui. Yay, Odette!
Donc, ça fait plus de 20 ans, Odette.
Oui, puis il y a 5 ans ou 6 ans, j'ai eu un deuxième cancer, col de l'utérus.
Mm-hmm.
Le premier, j'ai eu beaucoup de chimio parce que j'étais sur une étude parce qu'ils m'ont dit de mettre mes affaires en ordre parce que c'était très, 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 très avancé.
Mm-hmm.
Moi, j'ai dit non, moi, je vais survivre parce que j'étais séparée puis je voulais que mon fils soit élevé par moi.
Oui.
Durant la paix de ma chimio, son père arrivé à savoir quelle était ma chimio pour qu'ils savent que le lendemain, on est très malade. Il m'a amené en cours pour prendre la garde de mon fils.
Ah oui, ouais, c'est
mais
ça.
J'ai gagné ma cause, je me suis très battue. Ensuite, maintenant, j'ai pris une pré-retraite anticipée 6 ans avant mon temps parce que je travaillais dans un milieu de femme est très toxique,
ouais.
Pas beaucoup de sympathie, ni empathie, ni compassion. Mm. Quand j'ai appris à ma patronne que j'avais un cancer du col de l'utérus, j'ai dit, je vais être absente 2 mois. Elle m'a dit, oh non, je ne suis pas ma traductrice. Mm. Si.
Ouais. Fait
que, merci beaucoup. Fait que je suis partie parce que j'avais peur que le stress de cet endroit me donne un troisième cancer.
Je comprends.
Je suis devenue professeure de yoga dans des refuges de femmes. Je suis devenue aussi figurante dans le cinéma.
Vous avez fait plein de choses, Odette, finalement.
J'ai eu 5 carrières depuis ma retraite.
Ouais.
Je travaille en cancérologie bénévole.
Bravo, Odette. Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage, Odette.
C'est lumineux.
Ouais. En même temps, bon, c'est sûr que, tu vois, on parlait des gens qui ne savent pas comment réagir.
C'est ça.
Qui pensent
qu'à
eux.
Ah non, je vais perdre ma traductrice.
Ouais.
On parle de la vie de quelqu'un ici, là.
Mais tu vois, ça nous amène à dire, bon, les gens ne savent pas, je pense, dire les mots parce qu'il y a une gêne incroyable.
Ouais.
Bon.
C'est de la maladresse.
Qu'est-ce
souvent.
Qu'on doit... En fait, on dit rien. On se tait puis on écoute l'autre. C'est un peu ça.
Ben, hein? Oui. Puis on arrête de parler de soi.
C'est ça.
Vis-à-vis la détresse de l'autre. T'sais. Je sais pas, c'est comme humain. La base de l'humain. Là.
Mais tu sais, il y en a qui vont dire, hey, gars, chacun sa détresse.
Oui, je comprends, mais à partir de là, tu fais le ménage, justement.
C'est
puis,
ça.
Tu veux pas ces gens-là alentour de toi.
On a Josée avec nous. Bonjour, Josée.
Bonjour à vous. Bonjour
Allô.
À vous deux.
Salut,
bonjour,
Josée.
Moi, ce que je voulais te dire, c'est sûr que tu as été très inspirante. Moi aussi, j'ai eu un cancer du sein. Ça fait 10 ans. Moi, la fille qui m'a accompagnée, c'est moi.
Ouais.
Je dis que ce cancer-là est une des plus belles choses qui m'est arrivée parce que j'ai 2 enfants autistes.
Ah là là.
Puis ma vie était focussée sur eux. J'avais l'impression que j'étais venue au monde pour m'occuper de les emmener à maturité, de les emmener c'est des autistes. Puis quand mon ami médecin m'a dit, Josée, je sais pas si tu vas t'en sortir, ben le soir, je suis allée embrasser mes enfants, puis ils n'étaient plus autistes, ils étaient mes enfants.
Ouais.
Ça m'a enlevé un poids, puis j'ai embarqué dans ma chaloupe, puis j'ai ramé, mais tout seul, puis j'ai découvert le moi. Puis depuis 10 ans, ça a l'air un peu particulier, mais... Mon focus avant tout est sur moi parce que j'avais vraiment un réel besoin d'aider, d'être aimée et tout et tout. Puis ce cancer-là qui est venu dans ma vie, ben ça m'a apporté un moi. Puis
tu t'es portée toi-même, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est
ça.
Merci.
Puis, tu sais, quand je lisais tes chroniques, je disais, elle est tellement chanceuse, tu sais, c'est comme... Mais on fait notre chance, puis on prend, tu sais, comme aujourd'hui, hier, c'est le verglas, mais aujourd'hui, la glace est dans les arbres, c'est de toute beauté. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de voir, tu sais, toi, t'étais chanceuse parce que, bon, il y a eu plein d'amour et de fées autour de toi, puis, tu sais, à chacun sa chance, mais...
Mais tu l'as été pour toi aussi, en fait.
Exactement. Puis c'est particulier de voir une si grande épreuve après 10 ans me faire dire que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Là.
Ouais, ça arrive souvent, en fait,
ça, on l'entend
on
beaucoup.
L'entend souvent,
c'est fascinant, ça, d'ailleurs. Ça. Mm-hmm. Merci, Josée, de votre témoignage. On va s'arrêter ici. On va poursuivre tout de suite après ceci. Il y a Diane avec nous. Bonjour, Diane. On parle
Bonjour.
Avec Annick Lemay également, qui vient, vous me permettez de redire le titre de son nouveau livre, qui est en fait le recueil de ses chroniques que vous avez peut-être suivies. C'est Carnet, en fait, tout au long de sa maladie l'année dernière. Le gouffre lumineux s'est publié chez Urbania. Diane, racontez-moi ce que ça vous amène à...
Oui, moi, je l'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer de l'estomac. On a enlevé complètement l'estomac. C'est de relier de l'œsophage à l'intestin. Puis ça fait plusieurs années. Mais oui, c'est vrai qu'on le vit seul, mais excepté... Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de gens alentour de moi. J'avais heureusement mon mari qui m'a traîné pour la chimio, pour la radio, puis tout ça. Puis malheureusement, il est décédé 6 mois après. Mais quand même, mais aujourd'hui, je vis seule, puis je me sens guérie aujourd'hui. Puis c'est de dire aux gens, oui, il y a encore de l'espoir, parce que quand on entend votre invitée, Annie, elle a du courage dans sa voix.
Mais oui, vous aussi, Diane, beaucoup.
Oui, on sent beaucoup le courage, fait que ça donne l'opportunité aux gens qui vous écoutent de dire, ben gars, il y a de l'espoir, on meurt pas toutes de ça.
Non, vous avez raison. Merci, Diane. Merci beaucoup. Marco, bonjour.
Oui, bonjour, Isabelle. Bonjour, Annick.
Salut, Marco.
Annick, on est très, très content que tu sois guéri. C'est vrai, ça prend pas 5 ans. Tu dois être guéri. On est super, super content. On a hâte de te voir à l'écran.
C'est bien gentil. Merci.
Moi, j'appelle juste, ma mère, elle a eu cancer du sein parce qu'elle s'en est sortie. Mes 3 tantes, ils ont eu le cancer du sein. Il y en a 2 qui s'en est sortie, puis il y en a une, malheureusement, qui en est décédée.
Oh, donc vous avez les femmes dans votre famille ont le gène, le fameux gène.
Exactement.
Ouais.
Mes 2 petites sœurs ont été passées un genre de test pour voir si c'était
porteuse du gène.
Ça a l'air qu'il y aurait des chances, il y aurait des bonnes chances de l'avoir eux autres aussi.
Bon, mais elle va pouvoir prendre le taureau par les cornes avant, en tout cas, en sachant qu'elles sont porteuses ou non, elles vont pouvoir faire des actes pour éviter d'avoir le cancer.
Merci, merci beaucoup, Marco. C'est difficile, ça, toutefois, parce qu'on a peu parlé de ton opération, finalement, parce qu'il y avait tellement d'autres choses à raconter. C'est fort intéressant, on pourrait se parler de la journée. Oui,
vraiment, pour en parler.
T'en parles, lisez son livre, vous avez ceux qui ont manqué ça, elle en parle allègrement, mais c'est quand même une double mastectomie, c'est pas rien. Puis pour une personne, c'est quand même important, ce genre d'opération aussi. Tu sais, en même temps, Diane qui dit, moi, j'ai eu le cancer de l'estomac, on s'imagine aussi avec quoi elle doit vivre aujourd'hui. Ça demande des ajustements qui sont pas mineurs, là. C'est des changements de vie. Il y a toi, la façon dont tu le vis, ça semble être plus facile même que ce que tu avais prévu. C'est ce que tu dis un peu?
Oui, mais en fait, oui et non. En fait, moi, ça a été un soulagement. Du moment où on les a enlevés, j'ai fait, pendant 5 semaines, j'ai dit adieu à ma poitrine que j'ai adorée, que j'ai aimée profondément, qui m'a fait vivre multitude de choses. Mais
qui a nourri ta fille.
Qui a nourri ma fille, entre autres. Aussi, ouais. Vraiment, oui. Ouais. Qui a nourri plein d'affaires, en fait. Mm-hmm. Mais en les enlevant, j'étais soulagée de pouvoir vivre. Ouais. Vraiment, c'est carrément ça. Puis avec, aujourd'hui, on est en 2018, l'année passée, 2019 aujourd'hui, je veux dire, c'est une reconstruction immédiate pour ma part. Celle qui décide de ne pas se faire reconstruire, je suis complètement en accord avec ça. Mais c'est pas vrai que c'est facile, là. Tu sais, j'ai encore du béton sur ma poitrine. Je veux dire, c'est dur, 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 c'est pesant encore. Mon bras, il bouge pas comme je voudrais. Mon omoplate est complètement jammée. Tu sais, il y a plein de séquelles.
As-tu encore de douleurs, tes douleurs?
Oui, oui, tout le temps. Mais, tu sais, ça coûte cher, toutes ces affaires-là. Tu sais, moi, je vois un kinésiologue, un ostéopathe, un masso, l'acupuncteur. Puis ça, chaque semaine, depuis
un an. Puis c'est pas remboursé par la RAMQ, ça?
Ben non, la RAMQ, elle rembourse pas ça. Puis l'UDA en rembourse un petit peu. Pas l'UDA, mais notre assurance. Bref, anyway, ça coûte cher. Mais je mets toutes les chances de mon côté, parce que mon corps, c'est quand même mon matériau de travail.
C'est ça.
Mais tu sais, c'est pas... En un an, j'ai fait beaucoup de chemin, mais c'est pas guéri, là. C'est pas... Fait que, oui.
Et c'est pas tout le monde qui le prend avec sagesse, forcément, ou qui le prend... je cherche le mot comment le prendre, parce que, tu vois, je pense à une jeune amie de 22 ans qui a appris que, tu sais, dans sa famille, toutes les femmes ont le cancer du sein.
On l'a BCRA 1 et 2.
Toi, tu l'as fait, le test, mais tu l'as pas, finalement. Tu l'as pas, c'était probablement le plus grand soulagement.
Oui.
Mais cette jeune femme-là, 22, 23 ans, qui vient de faire une tentative de suicide parce qu'elle ne le prend pas.
Je comprends.
On y a enlevé les 2 seins et 2 semaines après, elle a essayé de s'enlever la vie, tu sais.
Tabarnouche.
Et que là, tu...
Il y a tout le côté psychologique aussi, Isabelle, sincèrement. Là.
Mais est-ce qu'il y a des suivis là-dessus?
Ben oui, il y a de... Moi, j'ai mon psy.
Que tu payes, mais je veux dire, l'hôpital...
L'hôpital, tous les centres de cancérologie, en fait, offrent un suivi psychologique.
C'est pas rien, mais c'est-tu comme 2 séances, merci madame?
Non, tout le long de tes traitements. Mais c'est pas tout le monde non plus qui est prêt à aller se confier à un inconnu. Il y a beaucoup ça, c'est un peu comme la solitude, là. Un peu la demande d'aide est là aussi, psychologique.
Il y a le docteur Laberge qui nous écoute, docteur Christiane Laberge qu'on aime beaucoup, qui nous dit, tout à l'heure on se posait la question, Annick Lemay, est-ce qu'il y a des, tu disais, je viens d'avoir une idée, là, y a-tu du monde qui aide du monde?
Oui, c'est ça.
Il y en a, il y a la Société canadienne du cancer qui offre des services d'accompagnement au traitement, des bénévoles pour en parler avec les mêmes pathologies, il y a même des traitements, et même des traitements là, pour parler de ces traitements-là. Ouais. Tu sais, l'expérience de quelqu'un qui l'a vécu là, pour voir un peu comment c'est, tout ça. Et puis, Christiane nous dit, ce sont des proches aidants, car il n'y a rien de naturel à aider avec autant d'intensité. Ah, puis, elle a tellement raison.
C'est ça,
j'ai Louise qui me dit, oui, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a des centres d'action bénévoles dans chaque municipalité qui ont des bénévoles à leur disponibilité pour accompagner des gens qui sont un peu comme des petites fées d'Annie
Exactement, Glamé. Exactement, des petites fées
soit,
bénévoles.
Soit pour les traitements de chimiothérapie ou autres. Elle dit, Louise, que son amie Sylvie en a bénéficié de ce service. Elle dit même qu'elle est bénévole elle-même. Donc, il y a plein de
petites fées. Il y a plein de ressources,
tu vois?
En fait.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est quand même pas évident. Écoute, merci de témoigner de ça aujourd'hui. Est-ce que tu vas continuer tes carnets?
Pas les carnets, non, mais autre chose. Je
autre
continue
chose?
À écrire. Vu que la porte maintenant est ouverte, je vais pouvoir y aller plus joyeusement. Ouais.
Plus joyeusement. Ouais. Puis tu vas te remettre à jouer.
J'ai recommencé hier.
Exact.
Oui, c'était fascinant. Ouais, recommencer à jouer un an pile poil plus tard.
Ça a dû être fabuleux sur le plateau.
C'était extraordinaire. J'ai retrouvé mon équipe, c'était plein d'amour. Puis j'ai retrouvé mon métier. En fait, j'avais peur d'avoir des ratés, tu sais, mais finalement, le vélo était là, puis je suis embarquée dessus, puis j'ai pédalé. Ouais.
Ben, longue route,
merci.
Annick. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Le gouffre lumineux, allez vous procurer les carnets d'Annick Lemay.
Ah, demain.
Il sort demain. Le lancement aujourd'hui.
Oui.
Un an jour pour jour.
Merci,
Annick. Tout de suite après la pause. Hey, on change tout de sujet, nous, tout de suite après la pause. Oui, certainement. Je reçois Catherine Beauchamp, notre collègue chroniqueuse culturelle, qui va nous dire comment ça se fait que les billets de spectacle ont subi une espèce d'inflation galopante qu'on comprend pas ce qui se passe, à tel point qu'il y a des gens qui me disaient ces jours-ci, et moi, je l'aime, Céline, mais il y a des limites, les amis. On parle de ça tout de suite après.